Un autre regard. La grève des mineurs de 1963. Elle se produit à un moment charnière des mines, dans l'économie et la société française. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le charbon représente près de 90% de la consommation énergétique hors carburant, et les mineurs, héros de la résistance, sont les acteurs du redressement économique. Les mines sont nationalisées et le statut est instauré, qui prévoit entre 4 et 5 semaines de congés payés, assure aux mineurs pour la vie, le logement, le chauffage, la sécurité sociale. Et des dizaines de milliers d'embauches sont effectuées. La puissance des mineurs et de la CGT va être attaquée dès 1948 par des décrets qui renvoient au régime social d'avant-guerre et la répression violente de la grève de riposte par le socialiste Jules Mocq qui envoie 60 000 policiers pendant 56 jours avec un bilan terrible, 6 morts, 3 000 condamnations et 6 000 licenciements. C'est à ce moment que le lent déclin des mines commence. La mécanisation des puits permet une augmentation du rendement. La production atteint son apogée, autour de 59 millions de tonnes par an, en 1959-1960, alors qu'est décidée la diminution de la place du charbon. Deux raisons à cela. Le choix politique et économique de recourir au pétrole en remplacement du charbon produit en Europe. Et la volonté du pouvoir de De Gaulle de pousser encore son projet de réorganisation de l'appareil industriel qui nécessite de défaire les salariés. 5 ans après le coup d'État de 58, il s'estime indestructible. Il a gagné 4 référendums de suite, avec des scores de 62 à 90%, et obtenu une majorité absolue au Parlement lors des dernières législatives de novembre 62. Dans les mines, les conditions de travail s'aggravent. Mais ce qui concentre la colère est le niveau de salaire, inférieur de 11% à celui des autres secteurs. Les négociations ne donnent rien. La CGT appelle à une grève totale les 1er et 2 mars, suivie d'une grève au rendement pendant 15 jours. De leur côté, EFO et la CFTC, qui évoluent alors vers la CFDT, décident une grève illimitée à partir du 1er mars. Face à cela, De Gaulle décide de réquisitionner les grévistes des coqueries, qui sont indispensables pour le fonctionnement des hauts fourneaux et de la fonderie. Puis, voyant la réussite de la grève du 1er mars, qui est totale, tant dans le Nord-Pas-de-Calais qu'en Lorraine, il décide la réquisition de tous les mineurs. La quasi-totalité des 230 000 agents des charbonnages, dont 2/3 travaillent au fond, refuse la réquisition, défie De Gaulle. La réquisition voulait jeter la panique et semer la division. Elle a l'effet inverse. Elle décuple la combativité, soude le mouvement, solidifie l'unité syndicale. La solidarité de la population avec les mineurs est énorme et constitue le deuxième mur contre lequel le gouvernement va se heurter. Les manifestations associent la population aux mineurs. Une grève CGT, CFDT, FEN, UNEF de 15 minutes contre l'atteinte au droit de grève est massivement suivie. Des collectes sont organisées dans tout le pays. À l'étranger. Les artistes s'y mettent. D'immenses quantités de vivres sont envoyées. 23 000 enfants sont accueillis pour les vacances de Pâques. Dès la fin du mois de mars, des sommes correspondant à plusieurs jours de salaire sont versées. Alors que les négociations entre les mineurs et la direction piétinent, la 4e semaine de congés payés est obtenue dans le textile et la métallurgie de la région parisienne. La grève des mineurs à modifier le rapport de force. Après 38 jours, l'accord signé prévoit une augmentation des salaires sur un an, puis la quatrième semaine de congés payés. Ce n'est pas la victoire totale, mais le pouvoir gaulliste est ébranlé. Les travailleurs sortent plus forts du premier affrontement social depuis 1958. En 1965, De Gaulle ne sera pas élu au premier tour de la présidentielle, mis en ballotage par Mitterrand, soutenu alors par le Parti communiste français. Et surtout, le 10 janvier 1966, un accord d'unité syndicale, CGT-CFDT, est signé. 1968 n'est pas loin.